France Inter.
La planification écologique, c'est vraiment un truc pour moi à réfléchir profondément. Pas un truc de communication de Macron qui nous fait ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas, qui sont des grandes phrases qui veulent rien dire et qui sont là juste pour choper des électeurs en gros.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. Chaque après-midi, vous le savez, une heure pour zoomer sur un mot, une expression qu'on entend beaucoup, mais qu'on ne comprend pas toujours. Aujourd'hui, innovation, on va zoomer sur une expression que même ceux qui l'ont forgée sont pas capables d'expliquer, la planification écologique du gouvernement. C'est pourtant clairement la top priorité d'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, puisque depuis juillet dernier, la présentation de cette planification écologique n'a été repoussée que 27 fois. Promis, on vous la présente au plus tard le 15 juillet. Oh non, regardez des émeutes! Bon, ça se calme, on va pouvoir vous la présenter fin août, max. Oh non, regardez une abaya! Nous sommes mi-septembre. Et enfin, une date est tombée, lundi, ça y est. Cette fois, c'est lundi que ça va se passer, on est tous très excités. Faut dire que les premières mesures qui ont filtré, comme cette idée que chaque collégien de 6e va devoir planter un arbre, on sent que cette fois, ils ont bien saisi la mesure, l'urgence. Hein. Alors, honte à ces ONG qui dénoncent l'inaction climatique de la France. Je pense notamment au groupuscule écolo-bolchevique Réseau Action Climat qui a osé sur Internet une campagne calomnieuse sous le titre « Alerte, disparition, nous avons perdu le Conseil de planification écologique ». C'est malin, c'est malin. Alors que notre président donne tout pour la planète. Cet été, au large de Brégançon, on lui a reproché de faire du jet-ski alors qu'il repêchait des déchets plastiques. C'est normal, il l'avait promis, ce quinquennat serait écologique ou ne serait pas. Alors, à quoi va ressembler cette fameuse planification écologique? Qu'est-ce que ça va changer pour nous, pour la planète? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Et bonjour Anne Bringo.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter. Tiens, tiens, vous êtes directrice des programmes du RAC, le fameux réseau Action Climat qui cherche des noises parfois à notre bon président. Le RAC, c'est un groupement, on le rappelle, de 26 associations de lutte contre le dérèglement climatique. Dans quel état d'esprit vous êtes, Anne, à J-3, normalement, de la présentation au parti de cette planification écologique à laquelle vous avez participé puisque vous avez fait des recommandations?
Alors, on est très inquiets parce que cette planification écologique, effectivement, elle est déjà construite. Elle a pris des mois. On a un secrétariat général à la planification écologique qui dépend de Matignon, ça c'est une nouveauté, donc qui a pu obtenir des arbitrages entre les différents ministères, qui a construit ce plan. Alors ce plan, c'est de dire comment on va isoler des logements, combien de logements d'ici à 2030, comment on va se déplacer, quelle est la part de véhicules électriques en 2030, comment va évoluer la consommation de viande, des choses très concrètes du quotidien. Et ça, finalement, ça a déjà été présenté par Elisabeth Borne en juillet au Conseil national de la transition.
On va rien apprendre de très nouveau, c'est
J'ai
juste...
J'ai peur qu'on n'apprenne pas grand-chose. Nous, ce qu'on attend, c'est une prise de parole d'Emmanuel Macron, un portage politique, pour dire, voilà, je donne aux Français la vision, voilà où on va, et ce qui manque complètement, on ne sait absolument pas où on va, et voilà comment on va y aller avec des mesures et des financements sur plusieurs années.
Alors, on va essayer de comprendre ce que le gouvernement nous mijote exactement. On verra aussi avec vous, Anne, ce qu'il faudrait vraiment faire dans l'idéal pour enrayer le réchauffement climatique. Juste le temps de vous présenter mes partenaires particuliers. Manon Mariani, Quentin Lui,
avec la musique.
Bonjour.
Oh,
c'est très belle version MIDI-file qui a le mérite d'être libre de droit.
Voilà, ah oui, bonjour à tous.
Bonjour Mathieu.
Bonjour tout Mathieu.
Monde.
Avant de parler boulot, j'aimerais d'abord prendre un peu de vos nouvelles. En effet, sur le plan physiologique, la semaine n'a pas été simple pour vous.
Ça.
Quentin, vous étiez miné par une violente angine.
Ça va.
Oui, quant à vous, Manon, on m'a dit qu'on entendait vos quintes de toux depuis France Bleu, dont les bureaux sont certes au même étage, mais quand même à plus de 50 mètres de notre bureau. Ça va mieux?
Les pauvres, ils entendent mon rire et mes quintes de toux.
Tous s'entendent très loin. Alors tout à l'heure, Manon, dans votre veille sanitaire, vous nous direz ce qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui sur les réseaux sociaux.
Aujourd'hui, je vous parle du terme trigger warning que l'on voit beaucoup passer sur les réseaux. Alors, il a un but préventif, mais il en énerve aussi beaucoup. Je vous explique pourquoi dans ma veille sanitaire.
Face à vous, Anne Bringo, un garçon que j'avais à la base embauché pour faire parler les autres, mais qui, son ego gonflant au même rythme que nos audiences, qui n'est pas peu dire, merci vous, nous parle de moins en moins des autres et de plus en plus de lui. Exemple, durant l'émission de mercredi, où plutôt que d'interroger notre invité sur son expérience, il a préféré nous parler de la sienne. Ainsi a-t-on appris, mi-stupéfait, mi-gêné, qu'il projetait d'aller se faire greffer une barbe en Turquie.
C'est une blague.
Alors ça, Quentin, non, vous avez un trou là, c'est vrai, mais depuis je ne vois plus que ça.
Tout petit.
On sait où vous allez passer vos prochaines vacances.
Venant de quelqu'un qui a passé une heure à parler de son alopécie.
Franchement. Ah non, de son futur tatouage
oui,
sur le crâne.
Il faut le dire à nos auditeurs, tout ça c'est pour rire, je n'ai aucune alopécie. Oui, en revanche, vous avez un trou. Quentin, dites-nous, les gens dans la rue, ils connaissent cette planification écologique?
Je suis allé à l'Académie du Climat, donc c'est l'ancienne mairie du 4e arrondissement. C'est devenu un lieu d'échange, de conférence, mais vous allez voir qu'entre dedans et devant, C'est pas le même discours, ni la même génération.
Vers 16h30, le Zoom Zoom Test aura lieu comme prévu, puisque c'est moi qui m'en suis occupé. En revanche, pour notre humoriste Romane Deduic, tout ne se passera peut-être pas comme prévu, vu que c'est Cyril Lacarrière, le Pierre Richard de la rédaction en chef, qui l'a calé juste avant son départ en congé paternité. Et bien sûr, il s'est planté dans le sujet qu'il lui a donné. Ce malheureux Romane a donc bossé sur le colorisme, qui était notre sujet d'hier. Saura-t-il rebondir ou bien mettra-t-il tout sur le dos de Cyril ? Réponse en fin d'émission. Anne Bringo, avec vous, on va donc zoomer sur cette planification écologique du gouvernement qui sera présentée lundi. Déjà, est-ce que vous pensez qu'en ces temps d'inflation, de baisse du pouvoir d'achat, les Français sont si demandeurs que ça d'un virage écologique ? Est-ce qu'ils sont prêts à ce surcroît de sobriété que vous appelez dans vos recommandations, forcément ?
Alors oui, ils sont prêts à avoir des solutions. C'est-à-dire, ils sont prêts à avoir un logement bien isolé, dans lequel on n'a pas froid l'hiver, ni trop chaud l'été, et avec une facture d'énergie plus basse. Ils sont prêts à se déplacer en polluant moins. Ils en rêvent. Ils rêveraient de prendre le train et que ça coûte moins cher. Et ils ont envie d'avoir une alimentation plus saine. Si on a une alimentation plus végétale, on a une espérance de vie qui augmente de 10 ans. Donc oui, ils attendent cette transformation avec impatience. Et ils aimeraient que ça soit accessible, y compris aux ménages qui ont des bas revenus.
Donc c'est là-dessus qu'on attend essentiellement le gouvernement. De l'autre côté de la table, soyez indulgente avec lui, ça fait une semaine qu'il dort 4 heures par nuit pour, je cite, « reboutiquer le bazar que Cyril Lacarrière lui a laissé avant de partir en congé ». Hier, découvrant ahuri qu'on avait filé le mauvais thème à Romane Deduic, il a eu ces mots qui, je crois, reflètent bien son état d'esprit. Je cite, et ça c'est vrai, « Ah ben pour se reproduire, il y a du monde, mais pour donner des bonnes informations, il n'y a plus personne
oh ».
Cyril qui nous écoute appréciera. Bonjour Bruno Donnet.
Bonjour Mathieu.
Alors, entre deux coups de fil embarrassants à nos humoristes, vous avez en plus la charge d'une chronique et pas n'importe laquelle, le d'où ça sort. Donc dites-nous Bruno, la planification écologique, d'où ça sort ?
Alors la planification écologique, Mathieu, c'est le petit nom qu'Emmanuel Macron a donné, tenez-vous bien, à un programme gouvernemental. Carrément. En fait, le président de la République a demandé, il y a un an, à des scientifiques de renom et à des représentants associatifs très pointus sur les questions d'environnement de lui soumettre un programme et des recommandations pour ajuster sa politique écologique. Le hic, car il y en a un, c'est que ce programme devait être rendu public et mis en œuvre au mois de juillet dernier. Or, il a été reporté, différé, puis reporté encore. Bref, le gouvernement n'avait pas l'air franchement pressé de lui trouver une date pour l'inviter à déjeuner. Bon, vous l'avez dit Mathieu, si tout va bien, il y aura enfin présentation en grande pompe lundi prochain. Toutefois, à l'heure qu'il est, on ne sait pas si le président l'a lu, on ne sait toujours rien de ce qu'il a pensé de ses conclusions et on ignore surtout ce qu'il envisage de mettre en œuvre pour développer durablement une trajectoire environnementale plus vertueuse pour notre pays. Alors, le président Macron a mis les nerfs en pelote de tous les défenseurs de l'environnement qui se demandent si on n'est pas tout simplement revenu 13 ans en arrière à l'époque à laquelle un certain Nicolas Sarkozy avait tiré le frein à main d'un bon coup sec en plein salon de l'agriculture.
Je voudrais d'ailleurs, au point où j'en suis, dire un mot de toutes ces questions d'environnement. Parce que là aussi, ça commence à bien faire.
Alors, que fait la France pour nous protéger du réchauffement climatique ? Emmanuel Macron a-t-il réellement fait bouillir notre invité ? Et que faudrait-il faire pour éviter que les canicules de mi-septembre se prolongent jusqu'à la Toussaint ? Tel est le sujet que vous avez froidement planifié, Mathieu, et sur lequel nous allons zoom-zoomer jusqu'à 17h.
Merci Bruno Donnet. Anne Bringo, lundi, vous pensez que vous allez sabrer le champagne au rack ou bien la montagne va encore accoucher d'une souris ?
Lundi, on n'apprendra rien.
Vous n'apprendrez rien parce que vous savez déjà tout.
Exactement.
Mais c'est la manière dont ça va être mis en musique par Emmanuel Macron ou juste Elisabeth Borne, on ne sait pas, pour lundi.
Tout à fait. Nous, on trouve que le plan qui est sur la table et qui va être effectivement présenté au chef de parti lundi et au CNR mardi, c'est un plan qui va plutôt dans la bonne direction. Ce n'est pas le plan des ONG, on aurait voulu aller encore plus loin, mais on est déjà sur une trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre, donc de lutte contre le changement climatique, qui est intéressante, qui intègre en partie des enjeux sociaux. Il y a bien l'idée que pour la rénovation performante des logements des ménages les plus précaires, il y ait zéro reste à charge, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas un seul euro à payer.
Ça, c'est acté, en tout cas, c'est dans le...
Alors, c'est ce qui est en tout cas en discussion, donc on verra dans le projet de loi de finances aussi ce qu'on pourra trouver. Il y a effectivement la volonté de développer le véhicule électrique. On aimerait bien que ça soit des petits véhicules électriques.
Et non pas des gros qui pèsent 2,5
tonnes. Et non pas des gros SUV qui ont des impacts bien évidents. Évidemment, bien plus délétère sur l'environnement, mais qu'on ait aussi. On nous annonce 100 milliards sur le ferroviaire, on aimerait bien savoir un peu plus ce que c'est que ces 100 milliards.
C'est encore un peu flou, quoi.
Donc voilà, on a des trajectoires, mais pour l'instant, il manque des mesures très concrètes qu'on aura en partie dans le budget de l'État pour l'année prochaine, et également de vérifier que toutes ces trajectoires, elles sont vraiment robustes.
On va revenir en détail sur ce qu'il y a dans cette planification écologique, mais est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce que le gouvernement a écarté ? Vous dites les ONG auraient voulu plus, mais qu'est-ce que vous proposiez qui n'a pas été retenu ?
Alors, un exemple très concret, en fait, quand on parle de neutralité carbone en 2050, ça paraît très technique, mais ça ne l'est pas. Ça veut dire qu'en 2050, on n'aura plus d'essence et de diesel pour se déplacer et on ne se chauffera plus du tout.
On ne vendra plus d'essence ou diesel, pardon, ou il y aura plus de... les véhicules n'auront plus le droit de circuler.
Alors, ça, c'est à voir, en termes de mesures politiques. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'à ce moment-là, il n'y ait plus d'essence et diesel pour se déplacer et plus de gaz fossile ou de fuel pour se chauffer. C'est une grande transformation, mais on sait faire parce qu'on a d'autres types de véhicules. On sait se déplacer à vélo, on sait développer le train, les transports collectifs et réduire même la mobilité forcée. On sait isoler le logement, tout ça, on sait faire. Par contre, ce qu'on ne sait pas faire, c'est l'aviation. L'aviation, à court et moyen terme, on ne sait pas réduire le kérosène ou très peu. Et donc, le seul moyen de baisser les émissions de l'aviation, pour rappel, si c'était un pays au niveau mondial, ça serait le 7e émetteur au niveau mondial. Et donc là, il faut baisser le trafic aérien. Ce que propose le plan actuellement, c'est une baisse de la hausse. C'est-à-dire que la croissance du trafic aérien sera moindre que dernièrement. Nous, on voudrait vraiment une baisse du trafic en arrêtant les extensions d'aéroports. On y a une réelle fiscalité sur l'aviation, qui est quand même utilisée essentiellement par des personnes aisées, et en ayant effectivement des réductions sur les lignes intérieures bien plus fortes que ce qu'il y a actuellement.
Ça, un bon exemple concret, on a compris que côté de l'aérien, on n'y était pas encore. Ceux qui me connaissent le savent, j'aime groover. Tu fais ainsi, j'ai le rythme dans la peau. Oui, alors quand on me demande ce que j'ai envie d'écouter, évidemment, je dis, Chaka Khan, Like Sugar sur Inter. Évidemment, tous avec moi, je vais vous apprendre le moulinet disco.
Zoom Zen sur France Inter.
Et si, après la mode de la air guitare, Emmanuel Macron avait inventé la air écologie? Beaucoup de mots, beaucoup d'annonces et finalement assez peu d'actions. Anne Bringot, vous êtes directrice des programmes du réseau Action Climat. Avec vous, on zoome sur ce concept que va nous présenter Elisabeth Borne lundi, en tout cas au grand public et aux partis politiques, la planification écologique. On a évidemment envie d'être optimiste, mais vous avez déclaré hier, sur le climat, on a souvent des objectifs ambitieux, mais jamais les mesures cohérentes. Est-ce que vous pensez que là, ça y est, ils ont enfin compris?
Alors là, très clairement, le secrétariat général à la planification écologique, qui est l'organe qui dépend de Matignon, qui prépare cette planification, il est très clair. Pour l'instant, pour faire le plan, on n'a que 50% des mesures qui existent. Donc ça veut dire qu'il manque 50% des mesures. Ça, ce n'est pas les ONG qui le disent, c'est Matignon. Et donc, effectivement, il va falloir rajouter des mesures supplémentaires. Peut-être, par exemple, sur la rénovation des logements, il va falloir, à un moment donné, qu'une maison qui est en train d'être vendue, c'est le moment où elle est vide et c'est là où il faut rénover, puisque c'est plus facile de faire ces travaux quand il n'y a personne dedans, il va falloir peut-être rendre obligatoire la rénovation des maisons quand on les vend, mais ça veut dire aussi avoir des aides financières pour faire tout cela. Donc voilà, c'est le type de mesures très concrètes que l'on attend pour réaliser cette transition écologique.
Et ça, lundi, on ne sait pas si ça va être dans le projet qui va être présenté. Par exemple, ce que vous dites très précisément sur cette obligation qu'il y aurait sur les maisons, ça c'est très intéressant, c'est une mesure qui changerait beaucoup de choses.
J'en doute.
Ah, vous en doutez. Bon, un peu pessimiste de ce côté-là. Le 4 septembre dernier, dans l'interview qu'il a accordée au jeune Hugo Travers, Emmanuel Macron a affirmé sa volonté de voir tous les élèves de France planter un arbre. C'est très joli, mon fils est en sixième, il va planter un arbre, mais est-ce que c'est vraiment le reflet d'une grande ambition écologique? Est-ce que ça va changer la donne?
Alors, il y a un vrai sujet quand même sur les arbres. Les arbres, ils stockent du carbone, donc avec la photosynthèse, et en ce moment, en fait, le stockage du carbone par les forêts, il a énormément baissé. Pourquoi? On aurait pu s'y attendre, mais il y a un changement climatique qui fait qu'il y a plus de sécheresse. Plus de sécheresse, les arbres poussent moins, donc ils absorbent moins de CO2. On rajoute à ça des incendies, les arbres qui partent en fumée, on rajoute des parasites, et finalement, on a des puits carbone en France qui ont beaucoup baissé, alors qu'on voulait plutôt les agrandir. Donc c'est vrai qu'il faut préserver les forêts, il va falloir planter d'autres types d'arbres que ceux qui existent actuellement, parce que le changement climatique fait que dans les arbres actuels ne sont pas forcément adaptés dans les zones où ils sont. Donc il va falloir planter des arbres. Est-ce que ce sont aux enfants de planter des arbres? Je ne suis pas sûre. Et il y a des organismes qui sont là pour le faire, comme l'ONF, l'Office National des Français, qui souvent n'a pas beaucoup de réponses à ces demandes de moyens supplémentaires.
Donc on est un peu dans la com, quoi, sur ce genre d'annonce.
J'en ai un peu peur.
À quoi ont servi toutes ces COP, les conférences internationales de lutte contre le dérèglement climatique? Je rappelle qu'on prépare quand même la 28e qui se tiendra à Dubaï, un autre symbole. Est-ce que, quand on est un simple observateur comme moi, c'est un peu désolant, mais j'imagine quand on travaille au RAC, Réseau Action Climat, on doit un peu pleurer parfois. Enfin, ça avance quand même très doucement.
C'est dans nos tests de recrutement, on nous demande toujours ce qu'on pense du mythe de Sisyphe, parce que c'est vraiment ça, c'est un métier difficile où on avance d'un pas, on recule de deux, et c'est vrai que sur l'international, c'est difficile, ce sont des avancées pas à pas. On a obtenu à Glasgow, il y a quelques années, une date de fin pour les centrales à charbon, c'est un premier pas. Maintenant, ce qu'il faut, c'est la fin des autres énergies fossiles, le pétrole, le gaz fossile, et évidemment, dans un pays producteur d'hydrocarbures, le président de la COP28, c'est le président de la compagnie pétrolière des Émirats Arabes Unis. C'est pas facile.
Pas facile de lui expliquer.
C'est quoi la date butoir, l'année butoir de cette planification écologique? Parce que j'ai l'impression qu'on la recule à chaque fois, alors que le changement climatique, lui, l'avance à chaque fois.
Oui, alors là, la planification écologique, effectivement, elle est organisée maintenant pour notamment 2030. C'est vraiment d'ici à 2030 qu'il faut faire le maximum d'efforts.
Donc 7 ans, dans 7 ans.
C'est ça. Et il reste effectivement très très peu de temps. Ça ne veut pas dire qu'après, il ne faudra ne plus rien faire. Hein. Jusqu'à 2050, il y a des transformations importantes, mais vraiment, il faut engager une transformation majeure d'ici à 2030, ça c'est clair.
Plus 3 degrés en 20 ans, c'est le seuil au-delà duquel il y aura des répercussions graves pour la planète. Alors imaginez les répercussions sur le cerveau d'un journaliste d'un réchauffement de 2 degrés en seulement 24 heures. C'est ce qui est arrivé à Quentin avec son angine lundi. Alors ça, on l'a entendu toute la semaine. Depuis, il ne sait plus ce qu'il fait, il ne sait plus ce qu'il dit, mais il a le mérite d'être là. Rassurez-moi, Quentin, quand vous avez abordé les passants dans la rue, vous aviez un masque
mais oui,
quand même.
Toujours,
parce que c'était viral, hein, il faut le dire.
Oui, comme en studio.
Pour les prévenir.
Bon, je marche dans la rue avec ou sans masque, mais avec pour destination l'Académie du Climat dans le 4e arrondissement de Paris. Mais en arrivant devant, je tombe sur ce petit marché de producteurs. Un fleuriste vient de vendre un bouquet à ce retraité. Qu'est-ce que vous avez dans la main?
Dahlia.
Vous ramenez des fleurs à quelqu'un?
Évidemment, puisque je suis invité à déjeuner.
Oh, monsieur Gentleman, est-il sensible au sujet climatique ?
Planification écologique, traduction imposture, foutage de gueule, restrictions, emmerdement, gouvernement dehors, salopio, salopard, voilà.
Ah oui. Ah oui, c'est fleuri, comme ce que vous avez dans la main. Quoi.
Absolument.
Il me dit que la propagande sur le climat marche tellement sur notre génération qu'on arrive à se priver de liberté. Je lui fais quand même remarquer qu'on vit dans un monde aujourd'hui où il est difficile de nier une certaine forme de dérèglement climatique.
Alors, je vais vous dire une chose. Vous connaissez, vous avez entendu parler du glacier du Mont Blanc. Très grand glacier qui a beaucoup reculé. Et là, bizarrement, alors qu'il recule, on trouve des cadavres de légionnaires romains sous la glace. C'est bizarre, le monde. Ça veut dire qu'à l'époque romaine, le glacier du Mont Blanc était là où il est actuellement. Il y a eu des périodes de glaciation, il y a eu des périodes de réchauffement au cours du Moyen Âge, Louis XIV et compagnie. Il suffit de regarder l'histoire et arrêter de nous emmerder avec des conneries qui n'existent pas.
Je vous avoue que j'ai même pas eu envie d'insister.
Vous avez retrouvé Claude Allègre ?
J'entre dans ce qui était donc l'ancienne mairie du 4e arrondissement, devenue l'Académie du Climat. Et alors là, changement d'ambiance. Hein. Cours réinvestis, mobilier de récup, verger, espace de coworking, des jeunes gens en réunion. Bonjour.
Salut.
Bonjour.
Salut.
Quels sont vos prénoms ?
Moi, c'est Charlie. Romane.
Qu'est-ce que vous faites là ? qu'est-ce que je viens d'interrompre ?
On était en train de faire une réunion pendant la semaine de préparation pour une grosse fête qu'on fait dimanche après-midi à la place du Châtelet.
Elles font partie du collectif Le Bruit qui court et je leur fais lire un article de Libération.
Prévu avant l'été, repoussé à cette rentrée à cause des émeutes de juillet, la date du prochain conseil de planification écologique n'a toujours pas été fixée par l'exécutif.
Là, j'ai un petit émotion de... Ouais. Bon, en fait, le mot planification, pour moi, il fait vraiment comme s'il y avait un agenda. Et en fait, ça a été gêné par les émeutes, en tout cas ce qu'ils appellent les émeutes. Et du coup, on va repousser ce truc-là.
Et pourtant, pour elle, il y a des urgences, des choses à lancer vite, sans repousser continuellement les réunions.
Tous les logements vacants, les logements qui sont mal isolés, les passoires thermiques, c'est les sujets qui sont à la fois des enjeux climatiques et des enjeux sociaux. Enfin, c'est vraiment un truc pour moi à réfléchir profondément. Pas un truc de communication de Macron qui nous fait ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas, qui sont des grandes phrases qui veulent rien dire et qui sont là juste pour choper des électeurs.
On entend évidemment leur engagement. Je leur demande si elles y pensent souvent, si elles ont peur.
J'ai pas dormi de la nuit parce que j'avais en me couchant les images de ce qui se passe au Maroc et en Libye avec les éboulements et les inondations. C'est très clair pour moi qu'on n'est pas du tout à l'abri que ça en France. Et je trouve qu'en France, on se prépare pas du tout à cette éventualité-là. Je sais qu'un jour, il pourrait se passer ça à Montpellier où il y a ma famille et juste ne pas savoir où sont mes parents, où est mon frère, où est ma sœur, enfin ce genre de choses. Et en fait, je trouve ça hyper anxiogène et oui, j'ai peur.
J'attrape un café et une dame me voit sortir de l'Académie du Climat qu'elle ne voit pas d'un si bon œil. Mais pourquoi ?
Je dis que simplement, ça fait bien, je suis écolo, je trie ceci, je fais pas... Et tous ces bobos, tous ces jeunes qui sont là, qui manifestent avec des pancartes en carton, hein, qui font rien pour l'écologie, qui nettoient pas la nature.
Bon, vous l'entendez, l'écart générationnel, oui. Vous l'avez bien entendu. Allez, une dernière pour la route.
On a supprimé les voitures sur la rue de Rivoli, qui est juste derrière. Ça fait quoi au niveau de l'air ?
Alors, ça ne doit pas faire de mal.
Non, mais vous plaisantez ou quoi ?
Bah, ça ne doit pas faire de mal, on est d'accord.
Une Air Paris, qui est financée par la mairie de Paris, va donner les bons résultats. Non, mais attendez, oui. Arrête, qu'on arrête de nous prendre pour des cons. Il y a Georges Pompidou qui disait « touche pas la bagnole ». Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est Georges Pompidou. Alors, 74.
Entre les légionnaires romains qui décongèlent dans le glacier du Mont-Blanc et les slogans de Pompidou, se trouvent des angoisses légitimes et compréhensibles d'une jeune génération qui ne se sent pas écoutée, peu considérée, et qui est donc de fait une génération désenchantée, déplanifiée.
Eh oui, arrêtez d'emmerder les Français, comme disait Georges. Anne Bringot, vous êtes, je le rappelle, directrice des programmes du RAC, le réseau Action Climat. On vient d'entendre ses réactions dans la rue au projet de planification écologique que nous mitonne le gouvernement. Ce qui ressort, évidemment, c'est cet écart générationnel. Est-ce que ce n'est pas le principal problème auquel on se heurte aujourd'hui quand on veut faire bouger les choses ? On a l'impression que les boomers, comme on dit, évidemment pas tous, loin de là, mais quand même une proportion plus importante de boomers que de jeunes, se désintéressent, en tout cas ne voient pas la gravité du problème, malgré les chiffres.
Alors, je ne crois pas que ça soit représentatif des Français.
Je suis tombée sur deux spécimens.
Là, vous avez vraiment pas eu de chance.
Il y a des études qui montrent, notamment par Parlons Climat, qui est une organisation qui fait des études sur le climat, qui montrent que la préoccupation pour le climat, elle est forte, quelle que soit la génération, quel que soit le lieu où on habite, et même quel que soit le parti pour lequel on vote. Donc, c'est vraiment une peur. Ensuite, c'est vrai que peut-être certains essayent de trouver des échappatoires en se disant « ça me paraît tellement énorme, je préfère ne pas y croire ». Mais il y a quand même cette vision, et notamment dans les campagnes, on voit les impacts très concrets. Enfin, là, on voit la viticulture, il y a quand même des décès. Donc, on parle de choses très, très graves. Dans les banlieues, quand c'est la canicule et que vous vivez dans un immeuble complètement, dans un quartier complètement minéralisé, où il y a des îlots de chaleur catastrophiques, c'est très, très concret, quel que soit l'âge. Hein.
Et justement, on entend une jeune femme dans le micro-trottoir qui dit « Est-ce qu'il ne faut pas un événement très grave comme il se passe actuellement au Maroc pour qu'on prenne conscience en France de ce qui se passe ?» En fait, c'est ça ?
L'année dernière, ça a été le cas. Les incendies en 2022 ont été un tournant dans l'opinion publique en France. Tout le monde a vu que c'était maintenant ici et chez nous. Avant, le changement climatique, c'était un peu abstrait, c'était ailleurs, les pays du Sud. Là, tout le monde a compris que c'était chez nous. Voilà. Ensuite, effectivement, on voit aussi une petite montée de ce climato-négationnisme. Probablement attisé par certains leaders politiques qui ont envie de surfer sur ce populisme, et parce que ça peut paraître une solution rassurante quand ça paraît trop inquiétant. Et donc c'est important de montrer qu'il y a des vraies solutions, que les gens voient qu'il y a des moyens. En fait, on sait faire avec les technologies actuelles pour éviter la catastrophe climatique. Simplement, il faut s'y mettre dès maintenant et de manière solidaire, c'est-à-dire qu'il va falloir que chacun y mette du sien et en fonction de ses moyens. Donc les plus aisés vont devoir aussi faire plus, évidemment, que les plus modestes.
Anne Bringo, on a entendu Charlie qui angoisse la nuit et qui ne dort pas. Qu'est-ce qui vous fait peur, vous ?
Ah, moi, je dors très mal aussi, je n'ai pas un bon exemple. Pourtant, je ne suis pas très jeune. C'est vrai que l'inaction politique est quelque chose... Déjà, le fait que ça se rapproche. Moi, je travaille dans la protection de l'environnement depuis 2012, et enfin même avant, depuis 2005. Et je vois à quel point, en fait, avant, on se disait, bon, il va falloir réduire de facteur 4, les émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, on est dans le dur. Et c'est vrai que de voir que les politiques ne réagissent pas alors qu'ils connaissent tous les rapports, et de voir que les entreprises, certaines entreprises font un lobby incroyable avec tout un tas d'arguments sur la France c'est que 1% des émissions, donc pourquoi s'embêter, etc. Ça, c'est vraiment inquiétant parce qu'on se dit qu'on pourrait aller dans le mur alors qu'on a les solutions. Et c'est là où c'est très très frustrant.
Oh les cœurs, et si cette fois c'était la bonne, et si j'avais tort de mettre en doute la sincérité du gouvernement quand il annonce qu'il va s'attaquer sérieusement à la question du réchauffement climatique, on continue de zoomer sur cette planification écologique dont on aura tous les éléments lundi. Nous permettra-t-elle d'éviter la fin du monde ? Avant la fin du monde, en tout cas, il y a pire, le Zoom Zoom Test à suivre, juste après Bebel Gilberto et Precisa o Perdoar sur Inter. Oh.
Madrugada já rompeu. Você vai me abandonar. Eu sinto que o perdão você não mereceu. Eu quis a ilusão, agora tô sou eu. Madrugada já rompeu. Você vai me abandonar. Eu sinto que o perdão você não mereceu. Eu quis a ilusão, agora dor sou eu. Pobre de quem não entendeu que a beleza de amar é se dar. E só querendo pedir, nunca soube que é perder. Pra encontrar eu sei que é preciso perdoar. Foi você que me ensinou que um homem como eu, que tem por quem chorar, só sabe o que é sofrer se o pranto se acaba. Thank you. madrugada já rompeu. Você vai me abandonar. Eu sinto que o perdão você não mereceu. Eu quis a ilusão, agora a dor. Só eu. Pobre de quem não entendeu que a beleza de amar é se dar. E só querendo pedir, nunca soube que é perder. Pra encontrar, eu sei que é preciso perdoar.
Zoom, zoom, zen. Sur France Inter.
La planification écologique, comment ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? On en parle avec vous, Anne Bringo, du réseau Action Climat. Alors, il y a évidemment les gens comme vous qui ont compris qu'il y avait urgence à s'attaquer au problème du réchauffement climatique. Et puis, il y a aussi d'autres gens qui l'ont un peu moins compris, voire pas compris du tout. Et c'est à eux qu'on va s'intéresser dans l'incontournable Zoom Zoom Test.
L'incontournable.
Oui, car il est devenu incontournable. Car ce n'est pas parce qu'ils ne pensent pas comme vous, Anne Bringo, qu'il ne faut pas les écouter. D'autant qu'ils ont parfois de bonnes idées, faciles à mettre en place. C'est vrai, pourquoi s'interdire de prendre des bains, de rouler en Hummer, quand on peut tout simplement déplacer le problème du réchauffement climatique dans l'espace? D'après vous, Manon, Quentin, quelle solution nous proposent les partisans de la géo-ingénierie afin de refroidir la planète sans trop chambouler nos modes de vie? On envoie des pare-soleils géants dans l'espace, comme celui de votre multiplat, mais dans l'espace. On envoie de gros miroirs dans l'espace pour réfléchir la lumière du soleil. Ou on envoie Anne Bringo dans l'espace pour qu'elle explique au soleil que c'est fini les conneries.
C'est la réponse A. Le miroir serait hyper dangereux.
Manon, c'est la réponse B. Oui. Vous voyez bien des gros miroirs, ouais. Manon. Pensez qu'il y a des mecs qui sont géo-ingénieurs qui se disent Mais c'est la bonne réponse,
oh là là.
La couche d'ozone ne bloque plus suffisamment les rayons du soleil. Il fait 34 à Dijon début septembre, pas de soucis. Plaçons en orbite des milliers de miroirs. Oui, je sais, Anne, vous allez me dire que même si on réussissait à mettre en orbite 1000 miroirs, ça ne réfléchirait que 1% du rayonnement solaire. Mais vous n'êtes jamais contents, vous, les écolos. Pourtant, je vous présente là les plus belles trouvailles en matière de technosolutionnisme. Ce courant de pensée qui veut que face au dérèglement climatique, on n'a pas besoin de changer nous, on a juste besoin de changer le climat. Une philosophie que partage Bruno Donnet, notre rédacteur en chef, qui me disait tout à l'heure à la machine à café, tu vois, je trouve que Jair Bolsonaro manque au Brésil. Sa vision sur l'Amazonie, son sens de la justice sociale et surtout ses idées en matière de sauvegarde de l'environnement. En 2019, quelle solution lumineuse avait-il proposée afin d'économiser l'eau? Privilégier la caipirinha, prendre des douches à deux, caliente, ou déféquer une fois par jour. Deux, pas déféquer. Déféquer un jour sur deux.
C'est sûr.
Ah, ça peut pas être ça. Si. Non, les douches à deux, j'aime bien, moi. B.
Mais on l'avait déjà eu, la douche à deux, à un moment.
Nous ?
Non, alors vous avez déjà pris une douche à deux, mais ça, vos conjoints n'ont pas besoin de le savoir, ni nos auditeurs. Réponse C, vous avez raison, Manon, oui. Effectivement, déféquer un jour sur deux afin d'inciter ses compatriotes à économiser l'eau, il les a incités à ne plus aller à la salle qu'un jour sur deux. Alors certes, les idées les plus simples sont souvent les meilleures, mais c'est important de le rappeler, pas toujours. Attention, top direction, un pays réputé moins fantasque politiquement que le Brésil, la Suisse. Célèbre depuis longtemps pour sa géo-ingénierie fiscale, la Suisse est désormais également en pointe en matière de géo-ingénierie tout court. D'après vous, qu'ont fait les Suisses pour protéger leurs glaciers du réchauffement climatique? Ils ont acheté de gros climatiseurs pour souffler sur les montagnes un air à 0 degré. Ils ont décidé de parachuter régulièrement des blocs de glace sur le Mont Blanc, résolvant par la même occasion le problème du surtourisme. Ou ils ont tout simplement mis des couvertures sur les glaciers.
C'est...
Bah oui, je pense. J'allais dire ah, mais franchement, ce serait abusé.
C'est une bonne réponse, Quentin.
Oui, c'est
effectivement. Et il y a des couvertures pour ne pas avoir froid et d'autres anti-UV pour ne pas avoir chaud. C'est l'option retenue par les Suisses pour préserver leurs glaciers et ça marche puisque grâce à ces couvertures, la fonte glaciaire aurait été limitée à hauteur de 70%. Preuve que Camille Etienne avait tort de se faire du mouron. Ce qui est inquiétant en revanche, c'est la montée des eaux liée à la fonte de la banquise arctique. Montée des eaux qui pourrait faire que d'ici 10-15 ans, j'aurais construit la piscine dans le sud pour rien. La mer arrivant directement au niveau de la terrasse. Noyant par la même occasion mes voisins du dessous, si bruyants en août. Oh, ce serait pas mal finalement, d'autant que le prix au mètre carré exploserait, mais vous me connaissez. Ma propre priorité, c'est le bien commun, certainement pas un bien privé, même exposé sud-ouest avec une vue imprenable, toutes les infos sur Abritel. Bref, il faut absolument sauver la banquise, mais comment? En suivant les recommandations de Jean Covici, pas plus de 4 vols en avion par personne au cours d'une vie, en balançant des aérosols sur l'épaule pour les refroidir, ou en organisant un grand concert de soutien à la banquise avec Faudel, Tina Arena et M. Pokora.
A,
B. Ça a existé, ça?
L'occasion de rappeler qu'il y a pire que la reprise de Corinne Charby par Quentin Louis, la reprise de Claude François par M. Pokora. Oh là là, vous m'avez dit?
Moi j'ai dit la B.
Et vous, vous avez dit B, c'est la bonne réponse, Quentin. Oui, foutu pour foutu. Si on balançait des aérosols pour refroidir les pôles, c'est l'idée de certains chercheurs dont on ne sait pas s'ils sont sponsorisés par Total Energy. On va blinder des avions militaires de produits chimiques et les envoyer saupoudrer 13 millions de tonnes de dioxyde de soufre sur les pôles. Le but étant de former un écran qui réfléchirait une partie des rayons solaires. Une idée particulièrement controversée puisque Anne, qui calcule vite, ne manquera pas de souligner qu'il faudrait 175 000 vols par an pour réaliser un tel projet, ce qui n'est pas l'idéal non plus en termes d'émissions de CO2, c'est vrai, mais au moins les gens se creusent la tête. C'est le cas, on ne le salue pas assez dans cette émission wokiste, d'Elon Musk. Elon qui, lui, ne pense même plus à sauver la Terre. Il pense que la survie de l'humanité se jouera sur Mars. Or, d'après vous, comment Elon Musk compte-t-il rendre Mars habitable? En forant à 10 000 mètres sous la surface pour trouver de l'eau? En obligeant les gens qui veulent être certifiés sur Twitter à aller creuser des puits sur Mars?
Génial, j'y vais direct.
Ou à lâcher des bombes atomiques sur Mars pour libérer du dioxyde de carbone contenu dans la glace?
C'est...
Ça, c'est chaud. Non, ah, mais non, c'est pas possible, on peut pas faire ça.
On va forer.
Et vous, vous m'avez dit?
C'est...
La bombe nucléaire, mais c'est même pas possible, ouais. Ça va exploser.
Et Elon Musk, c'est quand même l'homme le plus riche du monde. Il est pas... Enfin, il peut pas avoir des idées aussi connes. Mais c'est une bonne réponse. Eh oui. Et si loin d'être la perte de l'humanité, la bombe atomique était son salut. Ayant du nucléaire une vision aussi optimiste que les musclés dans les années 90, Elon Musk a même fait imprimer des t-shirts Nuke Mars, atomiser Mars, l'idée donc libérer le CO2 de la glace martienne, un CO2 qui instaurerait ce qui manque actuellement cruellement à cette planète, un effet de serre. Voyez, Anne, pas la peine de vous biler, Elon a pensé à tout et aucune victoire, aucune défaite, c'est ex aequo aujourd'hui pour nos deux champions. Pour nos deux champions dans le
coup. 3-2, 3-2, 3-2, 3-2.
Moi j'ai 3-3.
Je vous rappelle qu'il n'y a rien à gagner.
Bah si.
Rien.
Visiblement.
Moi, mon meilleur perso.
On devrait en savoir plus lundi, mais avec ce côté pionnier qui nous caractérise, on a voulu en savoir plus dès aujourd'hui sur la fameuse planification écologique que nous concocte le gouvernement. Et on en parle avec vous, Anne Bringaud, du réseau Action Climat. J'imagine que parmi les annonces qui vont être faites, vous allez être très attentive à ce qui relève de la lutte active contre le réchauffement climatique et ce qui relève plutôt de l'adaptation au changement climatique. C'est deux stratégies assez différentes. Est-ce que vous direz malheureusement que le gouvernement, pour l'instant, privilégie plus l'une que l'autre?
Alors pour l'instant, en tout cas, les travaux sont plus avancés sur la lutte contre le changement climatique, c'est-à-dire comment baisser nos émissions de gaz à effet de serre, que sur l'adaptation, où on aura un plan, effectivement, également sur l'adaptation, mais qui va arriver un peu plus tard.
D'accord. Je pensais l'inverse. Je pensais qu'ils se disaient on va s'adapter d'abord, et ensuite... Non, c'est l'inverse.
Non. L'atténuation reste quand même la priorité, et l'adaptation qui était vraiment pas du tout traitée, quasiment pas, ou vraiment par peu de personnes en France, devient un vrai sujet. Et c'est bien, parce que dans tous les cas, le changement climatique, il est là. Et même si il faut le freiner le plus possible, et chaque demi-degré compte, dans tous les cas, on va avoir des impacts, on ne pourra pas aller... Donc il faut se préparer, transformer notre agriculture, avoir des logements mieux isolés, ce qui est très bien pour consommer moins d'énergie, mais aussi pour la chaleur. On va y avoir une montée du niveau des mers, donc se préparer aussi à ce niveau-là. Donc tout ça, il faut le faire dans tous les cas.
Souvent, de manière assez binaire, la peur de la fin du mois et la peur de la fin du monde, on les voit un peu comme incompatibles, c'est-à-dire qu'on se préoccupe de son bonheur à court terme. Mais là, avec l'inflation, avec l'essence qui tutoie les 2 euros le litre, peut-être qu'enfin, on est dans une situation opportune pour que tout le monde se rende compte que l'intérêt, c'est, par exemple, dans cet exemple-là, passer à la voiture électrique, c'est peut-être le bon moment.
Alors oui, sauf que le véhicule électrique, actuellement, acheter un véhicule électrique neuf, vous arrivez facilement à des 27, 30, 30 et quelques. Enfin, c'est absolument inaccessible pour la grande majorité des Français. Donc le véritable enjeu, c'est rendre accessibles les solutions aux ménages, aux revenus modestes. Emmanuel Macron s'était engagé, c'était sa seule mesure dans son programme électoral pour les élections présidentielles, à avoir un leasing à 100 euros par mois pour un petit véhicule électrique pour les ménages modestes. On l'attend.
Ah, on l'attend toujours.
On l'attend toujours. Et voilà, parce que les constructeurs automobiles français, eux, ils avaient plutôt décidé de faire du haut de gamme
oui.
Pour avoir des marges plus importantes. Et ce qui fait qu'on va finalement importer des véhicules chinois. Je ne crois pas que ce soit l'intérêt ni des constructeurs automobiles français, ni des salariés de ces industries automobiles, ni même finalement de l'État ou des consommateurs français.
Tout à fait. Cependant, il me semble, pour suivre ça un petit peu, que le bonus écologique va être retravaillé et que les véhicules chinois
chinois vont en être quelque part exclus parce qu'il faudra, il y aura une prime au Made in France sur ce bonus.
Tout à fait. Donc le gouvernement a pris en compte effectivement ce risque d'importation de véhicules chinois. Simplement, il reste quand même à ce que les constructeurs français fassent des petits véhicules électriques accessibles, donc légers. Et ensuite, il y aura un marché de l'occasion. Ce n'est pas la seule moyen seul moyen de se déplacer. Il faudra aussi des moyens pour le train, parce qu'actuellement, c'est trop cher. Mais effectivement, l'idée, c'est que chacun, quelles que soient ses ressources, puisse avoir accès à des solutions. Actuellement, ce sont les ménages aisés qui peuvent isoler de manière performante leur logement. Il faut donner les moyens vraiment aux ménages aux revenus modestes. Et pour la mobilité, c'est la même chose.
Quentin, le problème, c'est peut-être la façon dont on s'adresse au grand public. Je suis allé faire un tour sur le site ecologie.gouv.fr. On tombe sur 6 thématiques, bien rangées, mieux se déplacer, mieux se loger, mieux produire, avec une petite police colorée, des images lumineuses. J'ai l'impression qu'on est encore dans le « allez, on doit faire un petit effort » au lieu de « les mesures vont avoir un réel impact sur les quotidiens ». Pourquoi on n'est pas plus réaliste dans la communication, sans être dystopique, juste plus neutre ?
Eh bien, demandez-le à Emmanuel Macron.
J'en ai pas l'occasion.
On l'attend.
Clairement, je pense qu'il faut dire la vérité, effectivement. Et la vérité, c'est que ce sont des transformations majeures. Après, ça ne veut pas dire que la vie va être insurmontable. En fait, c'est le changement climatique qui rend la vie insupportable. Parce que les gens qui ne peuvent pas sortir de chez eux parce qu'il y a une pollution de l'air, ou les enfants asthmatiques qui ne peuvent pas faire du sport parce que les jours où il y a une pollution de l'air, c'est à cause de la chaleur. C'est quelque chose qui est inadmissible. Ou si jamais il fait trop chaud chez soi, qu'on ne peut même pas faire ses devoirs, ou on ne peut pas inviter des gens, parce qu'au contraire, on est en précarité énergétique l'hiver et qu'on a honte de là où on habite. Donc très concrètement, oui, il y a des choses à faire, mais pour l'instant, effectivement, je pense que ces transformations majeures pour vraiment rénover de manière performante les logements, transformer la mobilité, transformer l'industrie, elles ne sont pas portées politiquement, et c'est là, toujours, on en revient à la volonté. Enfin, nous, on attend vraiment un message très clair Emmanuel Macron avec une vision et un portage politique.
Vous écoutez France Inter et vu l'importance des enjeux écologiques qu'on aborde aujourd'hui, je ne vous dirai pas s'il est 16h44 ou 16h46. La seule chose à savoir, c'est qu'il est minuit moins 90 secondes à l'horloge de l'apocalypse. Dans quelques instants, pour lui, l'apocalypse est déjà passée. Elle a eu lieu mercredi 13 septembre à 17h12 quand Bruno Donnet, rédac chef relou, s'est affiché sur son smartphone et que Bruno, visiblement désireux de ne pas galvauder le surnom qu'il lui avait donné, lui a annoncé qu'il devait réécrire toute sa chronique parce qu'il s'était planté de sujet. Roman De Duyck aura-t-il réussi à rebondir malgré tout ? Réponse dans quelques instants, juste après celle qui rebondit toujours. Elle rebondit toujours, le chirurgien lui avait dit « Madame Mariani, il faut compter au moins 10 jours pour se remettre d'une mammoplastie. Que nenni ! Que nenni ! Dès mercredi, elle était de retour. Quelle santé et quelle joie de parler avec vous, réseaux sociaux, Manon. Et aujourd'hui, vous nous parlez d'un terme qui ne fait pas l'unanimité.
Les trigger warning, traduction, trigger veut dire déclencheur et warning, avertissement. En français, on peut aussi dire traumavertissement. Bon, ça se dit pas trop. C'est un terme que l'on voit revenir beaucoup sur les réseaux sociaux dernièrement, sous le nom donc de trigger warning ou sous les initiales TW. Il est en général mis au début d'une vidéo, d'une story, d'un tweet ou d'un post Instagram. Son but, prévenir que le contenu qui suit parle d'un sujet sensible et potentiellement traumatisant pour certaines personnes. Un sujet qui pourrait réveiller des traumas du passé. C'est pour ça qu'en général, le terme trigger warning est suivi du sujet traité. Exemple, on va voir le terme TW, violence policière, avant la vidéo du jeune Naël qui s'est fait tuer en juin dernier, car c'est une vidéo choquante et qui peut heurter certaines personnes. Il est aussi utilisé quand on parle de harcèlement, de boulimie, de suicide ou encore de viol.
Mais c'est exactement comme quand un film est interdit aux moins de 16 ans en fait.
Oui, sauf qu'avec les réseaux, c'est quand même beaucoup plus compliqué de contrôler l'âge des personnes qui regardent les contenus proposés. Du coup, ces trigger warnings vont bien plus loin qu'un simple avertissement avant un film d'horreur, ce qui paraît logique. Aujourd'hui, il y a tellement de contenu sur tellement de réseaux que l'on peut tomber sur un post choquant sans le vouloir, poste qui peut potentiellement réveiller des traumatismes. Que ce soit le témoignage d'une ancienne victime de violences conjugales ou la vidéo d'un animal malade, chacun sa vie et chacun ses sensibilités. Bon, sur le papier du coup, on se dit que ces trigger warnings sont plutôt une bonne invention, que c'est un outil préventif et qu'il permet d'éviter aux plus jeunes de tomber sur des contenus difficiles.
Mais je sens maintenant que vous allez me dire que c'est pas le cas.
Alors disons que ces trigger warnings sont de plus en plus remis en question, notamment par des comptes militants, par des comptes aussi féministes. Certains disent qu'ils perdent leur signification applications car on les utilise trop aujourd'hui pour tout et n'importe quoi. Et si on oublie de les mettre, c'est un scandale. D'autant plus que les réseaux, on le sait, sont anxiogènes par nature. Ils sont un trigger warning à eux tout seuls, en fait. C'est clair que sur n'importe quelle plateforme, qui que l'on soit, on peut faire face à n'importe quel contenu choquant. Je précise d'ailleurs que si des sujets sont particulièrement traumatisants pour une personne, elle peut aussi bloquer certains mots-clés ou certains comptes. Et puis, autre raison avancée, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'encadrement autour de ce terme trigger warning. Par exemple, s'il y a un trigger warning dans une vidéo TikTok juste parce que le mot viol est employé dedans, est-ce vraiment indispensable de le notifier ? C'est là le grand débat.
Mais surtout, on sait si ça fonctionne vraiment ?
C'est très difficile à dire. Même certaines études scientifiques faites sur le sujet n'arrivent pas vraiment à se mettre d'accord. En fait, ces trigger warnings auraient un effet positif sur les personnes souffrant de stress post-traumatique, autrement dit, souffrant de troubles anxieux et ou physiques après un événement. Il est toutefois difficile de dire à quel moment cet état s'améliore, ça dépend de chaque personne. Donc potentiellement, ces trigger warnings aident tout de même beaucoup de gens. Alors dans la forme, il faut peut-être trouver une nouvelle manière de les mettre en lumière. Je pense par exemple au podcast Transfert qui raconte l'histoire d'une personne à chaque épisode. Eux, leur trigger warning ne se présente pas sous cette appellation, ils disent juste une phrase en début d'épisode.
Attention, cet épisode aborde des sujets sensibles. Pour en savoir plus, reportez-vous au texte de description de l'épisode.
Il suffit donc d'aller voir de quel sujet il s'agit pour savoir si l'on veut ou non écouter l'épisode. Évidemment, cette manière de faire s'applique moins aux réseaux sociaux. Mais d'ailleurs, c'est peut-être eux directement qui devraient mettre en place ce système de trigger warning. Comme ça, les créateurs, les influenceurs ou les militants n'auront plus à le faire ou non et à essuyer les critiques de leur communauté.
Merci Manon, belle chronique. Et justement, avez-vous déjà été obligé de réécrire entièrement une chronique parce qu'un rédacteur en chef en l'air s'était trompé de sujet, non ? Eh bien, on va demander à Roman Dodwig comment c'était de devoir pondre à la va-vite une chronique humour sur la planification écologique, alors qu'il avait écrit un petit bijou de chronique sur le colorisme. Roman Dodwig arrive, pas forcément de très bonne humeur, juste après Nicolas Michaud, Chaleur humaine sur Inter.
Perdu dans le cœur des foules, rien à faire là. Vos sirènes, vos sons me saoulent, je n'ai rien à faire là. Oh chérie, dis-moi quand tu viens. Oh chérie, dis-moi quand tu viens. Retour à la terre, retour en arrière. Que tout est chaleur humaine, que tout est chaleur humaine. Porte froid, porte froid. Noyé dans l'enfer des chiffres, je ne sais qu'en faire. On dirait que ma tête affiche. T'en vas boire un verre. Oh maman, dis-moi quand tu viens. Oh maman, dis-moi quand tu viens. Retour à la terre, retour en arrière. Que tout est chaleur humaine, que tout est chaleur humaine. Porte fruit, porte fruit. Au portefeuille. J'attends dans la brume du soir, l'apocalypse. Chaque fois je crois la voir, et puis elle s'éclipse. Oh mon frère, dis-moi quand tu viens. Ouais, mon frère, dis-moi quand tu viens. Retour à la terre, retour en arrière. Que tout est chaleur humaine, que tout est chaleur humaine. Porte fruit, porte fruit, oh porte fruit. Thank you.
France Inter, Zoom Zoom Zen.
Il a le regard noir. Or, il n'y a que deux raisons pour qu'un humoriste ait le regard noir. Soit il vient de réaliser que Gad Elmaleh lui a piqué une vanne, soit on lui a demandé de réécrire une chronique en dernière minute. Nous sommes sur le scénario 2. Bonjour Roman de Duic.
Bonjour tout le monde. Alors malgré tout, j'ai quand même une grande nouvelle. J'ai arrêté de fumer.
Ah non, je suis très content.
Il était temps. Hein. J'étais essoufflé dans les escaliers. Quand je les descendais, j'avais une vieille toux du Moyen-Âge, je crachais des glaires, c'était des escargots.
Oh,
ma bouche, c'était un cendrier, mes dents, c'était des mégots. En tout cas, ils avaient la même couleur.
Oh.
Et puis, mon médecin m'a quand même fait flipper. Il m'a dit, faut arrêter, monsieur Dauduic. Risque cardiovasculaire, cancer de la langue, du larynx, des poumons. Et plus il parlait, plus j'avais envie de m'allumer une clope. J'avoue, moi, à la base, je fais partie des tabaco-sceptiques. Ah ouais, il y a plein de gens qui fument et qui vont très bien. Regardez Michel Houellebecq. Il a encore sorti un bouquin l'année dernière, alors que c'est la basket officielle de Marlboro, quoi. Increvable, ce mec, je vous dis. Il a pas peur du cancer. Le cancer a peur de lui. Il va tous nous enterrer. Et puis, si ça se trouve, cette histoire de cancer, c'est un complot des patrons de salles de sport pour nous faire soulever de la fonte. On ne sait pas. Et la chimio, c'est un coup monté des vendeurs de perruques. Qui sait? Qui sait? Mais bon, comme mon médecin avait l'air sérieux, j'ai décidé d'arrêter avec une méthode infaillible quand t'as pas du tout envie de faire quelque chose, la planification. La planification tabacologique. J'explique. Pour tous ceux qui veulent arrêter de fumer, le premier mois, on supprime juste les cendriers. Le deuxième mois, on arrête de regarder des westerns. Et si on y arrive, on arrête d'acheter des clopes, on garde les copains. On fait ça progressivement, c'est ça le secret. Là, moi, vous voyez, je suis plus qu'à 17 clopes par jour. En janvier, je passe à 16. Avec des patchs, évidemment. J'ai calculé, si je respecte ma planification, je fume plus du tout en avril 2034. Bientôt, quoi. La planification, c'est génial. On crée une commission, on lui commande un rapport, on attend le rapport, on lit le rapport, on ferme le rapport, on réfléchit, on respire, on demande un autre rapport pour confirmer le premier rapport, on lit le nouveau rapport, on se fait un café, on appelle sa mère, on regarde doucement les locations pour cet été, on relit le rapport, et si les rapports sont tous d'accord, alors là on agit, enfin on prévoit d'agir, hein, progressivement. C'est ça le secret. Moi je fais ça tout le temps, je planifie quand je dois ranger mon appart. Aujourd'hui j'enlève les cheveux dans la douche, demain je fais mon lit, la semaine prochaine je jette les légumes qui pourrissent dans le bac à bière. Bon, entre temps il y a de nouveau des cheveux dans la douche, mais vous voyez, j'avance, c'est ça le truc, j'avance. Avec la planification écologique, évidemment, je suis pour, hein, à fond, progressivement. Le climat tousse un peu, mais ça va. On va pas s'inquiéter parce qu'on a un été qui commence en mars et qui finit en novembre. C'est pas génial les barbecues. On va quand même pas accélérer le processus parce qu'il y a 2-3 mecs de l'autre côté de la Méditerranée qui supportent pas les secousses et les inondations. Ou parce qu'il y a des pompiers grecs qui commencent à fatiguer un petit peu. Après, on est peut-être pas obligé d'attendre 30 ans pour planifier de se calmer côté yacht et jet privé. On est peut-être pas obligé d'attendre 30 ans pour éviter d'organiser des coupes du monde de foot au Qatar ou de faire des Toulouse-Barcelone en avion. Quand tu décides d'arrêter de fumer en général, tu commences pas par dormir dans un bar à chicha, même si c'est le bordel dans ton appart.
Merci Roman de Duic. Roman, vous êtes bien retombé sur vos pieds, je vous dis bravo. Et pour les locations de vacances, je rappelle, sur Abritel, il y a des belles choses, deux, trois belles choses, vous pouvez aller voir. Roman, que vous pouvez aller voir sur scène le 23 septembre à Bordeaux, au théâtre du Casino aux Barrières. Et sur scène, ce qui est bien, c'est personne pour vous dire non, c'est pas le bon sujet. Merci encore Anne Bringo, je rappelle que vous êtes la directrice du programme du RAC, des programmes du RAC, le réseau Action Climat. Et justement, c'est quoi votre prochaine action? Est-ce que c'est suspendu aux annonces de lundi?
Tout à fait. Le 3 octobre, on va lancer vraiment une mobilisation de toutes les ONG du réseau Action Climat pour justement cette planification écologique, mais surtout des actions très concrètes et ambitieuses. Donc rendez-vous le 3 octobre, voilà, pour cette mobilisation d'ampleur, et on appelle chacun aussi à se mobiliser dans son entreprise, auprès de sa collectivité. En fait, on est nombreux à vouloir agir et je pense qu'il faut qu'on s'en rende compte, et agir collectivement, ça fait du bien aussi.
Merci encore Anne Bringo, merci à tous les amis, Manon Mariani, Quentin lui, Bruno Donnet, qui est content qu'on soit vendredi, il finit la semaine sur les rotules, le Bruno. Ah, ça bossait moins au grand journal, hein. Bah oui, ici c'est Zoom Zoom Zen, vieux. Ghislain Fontana était à la réalisation, Maxime Goudard à la technique. Vous ne les voyez pas, mais leur rôle est primordial. On embrasse nos attachés de production, Fanny Crouzet, Amel Caldi, sans oublier cette stagiaire qui, à force de m'entendre écorcher son nom, ne sait plus elle-même comment elle s'appelle. Je crois que c'est Cléo Grisper. Et comme elle applaudit en régie, je crois que c'est bon. Allez, Zoom Zoom Zen, c'est fini. On se retrouve dès demain en best-of et lundi en direct. On zoomera sur un truc qu'on connaît bien ici. On sait en tout cas qu'ils l'ont rallongé dernièrement, le congé parental. Alors à lundi 16h.
Je vous laisse en bonne compagnie sur Inter, celle de l'affolante triplette Maya Mazorette, Marine Baousson, Marie Misset, bonjour.
Bonjour Mathieu Noël, on reçoit Juste Philippot ce soir pour son nouveau film Acide. Un film où les humains cavalent pour échapper à la pluie.
Alors je sais que ça ressemble un peu à un mois d'octobre en Bretagne, mais là c'est vraiment beaucoup plus épique.
À tout de suite.